Conférence privée par le père Philippe à Saint-Joseph, le 17 mars 1987.
Puisque nous allons fêter Saint-Joseph, qui est notre fête patronale, on va demander à Saint-Jean de laisser passer devant Saint-Joseph. Ils doivent s'entendre très bien dans le ciel. Je crois, les maris doivent être là pour montrer l'union si grande qui existe entre eux, dans son cœur. C'est vrai que c'est assez extraordinaire de voir que les deux créatures transformées par la grâce qui sont les plus proches de Marie. C'est bien Saint Joseph et Saint Jean. Et c'est beau de voir la comparaison des deux. C'est beau de comprendre, parce que parlant, on comprend un tout petit peu ce qu'est le cœur de Marie. Joseph a choisi Marie. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, ça. C'est pour ça qu'il l'a choisi pour être son époux. Il a choisi sous le souffle de l'Esprit Saint, c'est bien évident. Pour faire un tel choix et de le faire de cette manière-là, c'est du reste ce qui, je crois, nous fait pénétrer tout de suite dans le cœur de Saint Joseph. C'est l'Écriture qui nous l'indique. Marie, fiancée à Joseph. Donc, Joseph entre dans la révélation, si j'ose dire, par cette relation avec Marie. C'est par là. Évidemment, il entre dans la révélation avec David, puisque il est fils de David, petit-fils, arrière-petit-fils de David. Il est de la race de David. Ça, c'est pour montrer cette noblesse de Saint Joseph. Ce lien avec David. David doit nous éclairer sur Saint Joseph. Comme nous voyons un peu en théologie biblique, David, et que David est très sympathique. Mais qu'on voit combien David est aimé. Il est aimé de Dieu. Dieu l'a mis dans des circonstances terriblement difficiles. Ce qu'on lisait encore aujourd'hui. Cette lutte constante à l'égard de quelqu'un qui l'a sauvé, qui l'a aidé, qui l'a soutenu. Et cette manière extrêmement perfide dont le roi Saül se retourne contre lui. Et le roi Saül étant loin de Dieu. Voyez, dans la foi de David, comme c'est difficile à porter. Quelqu'un qui est loin de Dieu, quelqu'un qui a cette bénédiction de Dieu et de voir qu'il agit d'une manière tellement basse. C'est de la traîtrise. Tellement peu divine. C'est une terrible épreuve et tentation, cela. Quand on s'est confié, quand on a vu quelqu'un qui était béni de Dieu, et de voir que de fait, il y a cette espèce de corruption, de décadence. Et David est encore jeune. Il est généreux. Et les tempéraments généreux ont beaucoup de peine d'accepter la non-générosité des autres. Des tempéraments médiocres acceptent assez facilement la médiocrité. Mais des tempéraments généreux ont une peine énorme d'accepter la médiocrité. C'est insupportable. On a toujours envie renvoyer promener, parce qu'il est très généreux, David, le petit David. Le combat avec Goliath le montre bien. Il pète sa personne constamment, constamment. Il va très loin dans ce don. Il y a un lien entre David et Joseph. Et je crois que tout ce qui nous est dit sur David, c'est quand même pour que nous essayions de comprendre un tout petit peu Joseph. J'en suis sûr. On ne le voit pas assez. Mais Joseph est plus que David. Dans la lumière de Dieu. Joseph est plus grand que David. Et donc toutes ces qualités qu'on voit de David, toutes ces qualités qui sont sous-jacentes, que j'essaie de temps en temps de vous manifester, mais relisez, il faut relire l'histoire de David. Le jour de Saint-Joseph, faites ça. En suppliant l'Esprit Saint de vous faire comprendre cette parenté de David avec Joseph. Vous verrez comme c'est riche, comme... Ayant prêché une fois pour Jean Vanier à l'Arche, l'Alliance, Jean Vanier m'avait demandé de prêcher sur Saint-Joseph, toute la retraite. Et j'avais demandé à Jean Vanier, qu'est-ce qui vous impressionne le plus ? Alors il m'a dit, ah, il est de la race David. Et c'est vrai, on n'y pense pas beaucoup. Il est de la race David. Et donc, si David nous est montré de manière si étonnante, si belle, vous savez bien que le peuple d'Israël a une vénération pour David. David reste quelqu'un de... C'est le roi, j'allais dire par excellence. Évidemment, à la fin de sa vie, il y a eu quelques petites difficultés. Mais il a fait un tel acte de pénitence. Il y a quelque chose de royal dans Joseph. Et ça, c'est vrai, il y a quelque chose de royal dans Joseph. Il y a quelque chose de grand. D'une générosité étonnante d'avoir eu, vous voyez, sous le sceau de l'Esprit Saint, cette audace. Il faut être très humble pour ces audaces-là. Cette audace de choisir la petite Marie. Il ne savait pas qui elle était, c'est évident, mais quand même, il devinait. Il y avait entre Joseph et Marie, il y avait un lien. Un lien. De noblesse, j'allais dire. Parce que Marie aussi a une noblesse d'âme étonnante. Selon le père Feuillet, elle est de race David aussi. C'est très difficile, on ne peut pas. On discute quand les exégètes discutent, on est libre. Alors c'est ça qui est merveilleux. Le père Feuillet étant un exégète quand même assez grand. Et comprenant la grandeur de la parole de Dieu, pour moi c'est le meilleur exégète que j'ai rencontré. Il y en a d'autres très bons, mais lui a quelque chose de très spécial comme finesse d'exégète et d'humilité d'exégète. Et je vais poser la question de savoir si pour lui Marie était de race David. Il m'a dit oui, pour moi j'en suis convaincu. On ne peut pas l'affirmer scientifiquement. Mais on peut le dire. Rien ne s'oppose à ce qu'on le dise. Et donc, on voit très bien comment on peut le dire. Et peu importe, j'allais dire, Marie n'a pas besoin d'être de la race de David. Quand on est immaculé, on est de la race de Dieu. Alors c'est encore mieux. Donc elle n'a pas besoin d'être immaculée. Passe au-dessus, c'est peut-être pour ça que l'Écriture ne dit rien, parce qu'elle n'en a pas besoin. Tandis que Joseph en a besoin. Ça oui. Et il en a besoin parce que pour qu'on comprenne comment il a choisi Marie. C'est une des choses les plus étonnantes. Il faut demander à Saint Joseph, le jour de sa fête, qu'il nous révèle quand même un tout petit peu son cœur et son amour pour Marie. Parce que je crois que ça fait partie des confidences qu'on doit demander aux saints. On doit demander aux saints de nous donner leur confidence. On ne le demande pas assez. On fait partie de la famille des saints, quand même. Alors, si on fait partie de la famille des saints, on a le droit de leur demander ça. Le jour de leur fête, les autres jours, je ne dis pas, apporter une fleur à Saint-Joseph, et puis demandez-lui qu'il vous fasse comprendre son amour pour Marie. Comment l'a-t-il regardé quand il l'a choisi ? Alors on dira évidemment, de ce temps-là, les mariages se faisaient par les familles, et donc il n'y a pas de choix. Oui, je suis d'accord, sociologiquement parlant. Mais divinement parlant, c'est pas la même chose. Vous croyez que Joseph n'a pas choisi Marie? Ça me semble impossible. Puisque c'est justement la profondeur de son cœur sous le souffle de l'Esprit Saint qui l'a fait, qu'il a choisi Marie. Donc il l'a aimée pour être celle qui serait la compagne de sa vie, de son cœur, pour être la femme, avec tout ce que représente pour Joseph cela. Vous voyez, Joseph et Marie dépassent énormément le conditionnement de leur époque. Comme toujours les grands saints, c'est des grands chênes dans la forêt, quoi. Alors, les autres, ils sont en dessous. Essayer de comprendre le cœur de Joseph et le cœur de Marie uniquement en regardant l'époque dans laquelle ils ont été, je crois que c'est ne rien comprendre à Joseph et à Marie. Joseph a une taille d'homme très grande, qui est très grande. Lisez les litanies de Saint Joseph. C'est de la dévotion. Mais c'est quand même bon. Lisez les litanies de Saint-Joseph, vous verrez comment l'Église a voulu donner à Saint-Joseph toutes ses prérogatives. Quand on voit que Saint-Joseph est lié au patriarche, pilier de façon très explicite à David, Saint-Joseph termine toutes les alliances que Dieu a faites avec son peuple. Termine tout ça, Saint-Joseph. Puisque lui va y avoir cette alliance avec Marie et l'alliance avec Jésus. Donc il y a ce choix. Jean n'a pas choisi Marie. C'est très important pour les gens qui disent qu'ils n'ont pas de dévotion particulière à la Très Sainte Vierge. Vous en rencontrerez dans notre vie, vous en rencontrerez, vous avez peut-être déjà rencontré. Puis parmi vous, il y en a peut-être quelques-uns qui disent, c'est rare, parce qu'en disant, il ne reste pas 8 jours ici. Mais il y en a qui rencontrent, je n'ai pas beaucoup de dévotion à la Sainte Vierge, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, c'est curieux. Ils ont tous de la dévotion pour la Sainte Vierge. Jean n'a pas choisi Marie. C'est Jésus qui l'a choisi pour lui. Et c'est important de regarder ces deux hommes relatifs à Marie. Je me souviens d'avoir discuté une fois très longuement avec le Père Zéro là-dessus. Qu'est-ce qui était le plus aimé du cœur de Marie? Alors on peut dire que Marie étant immaculée, les a aimés tous les deux follement. Ça c'est vrai. Et divinement. Et merveilleusement. Elle a choisi Joseph. Elle a répondu au choix de Joseph. Il y a eu un choix personnel de Marie pour Joseph. Et ça, le Père Théo était très sensible à ça. De sorte qu'on disait, mais non, Jean passe avant. Le Père Théo disait, attention. Attention, l'Église met Joseph à une situation tellement grande qu'il ne faut pas diminuer Joseph à cause de Jean. Surtout pas. Il faut au contraire considérer toute la grandeur de Joseph qui peut-être nous prépare à Jean. Mais Jean venait après. Jean n'enlève rien à ce lien si fort de Joseph avec Marie. Il n'enlève rien du tout. Et Jean, c'est autre chose. Joseph. C'est la jeunesse de la femme. Tandis qu'à Jean, ce n'est pas la jeunesse de la femme. À Jean, c'est la femme de toutes les douleurs. Le premier regard de Jean. Le premier regard de Jean. C'est un Cana, c'est sûr, mais le premier regard de Jean, au moment où Jésus lui dit « Voilà ta mère », Jean l'a regardé, c'est impossible autrement. Et à travers les larmes, il y avait le sourire de Marie. Parce que Jean, Marie a accueilli Jean dans un sourire, c'est impossible autrement, et dans le silence. Elle l'a accueilli à travers ses larmes, à travers ses souffrances. Tandis que Joseph choisit Marie dans la joie. C'est un mystère de joie extraordinaire, d'épanouissement du cœur de Joseph d'une façon étonnante. Découvrir Marie et être sûr que Marie répond à ce choix. Parce qu'il a dû quand même réfléchir. C'est bien, il est de la race David. Et donc il peut avoir des audaces de générosité, de don de lui-même, et quand même. Et quand Marie a répondu, et quand Marie a accepté le fiat de Marie, le premier fiat de Marie, c'est à Joseph. Le second, c'est à l'ange. Et le premier, c'est à Marie, c'est à Joseph. Quand Marie a dit oui pour l'orientation de sa vie, parce que c'est la première orientation de sa vie, quand même. Fiancée à Joseph. Il y a une orientation beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus cachée. C'est la consécration de Marie à Dieu. Mais celle-là n'est pas officielle. Elle est cachée, c'est un secret. C'est toute sa vie qui est donnée à Dieu. Mais au point de vue communautaire, au point de vue officiel, la première orientation de Marie, c'est à l'égard de Joseph, et c'est son fiat à Joseph. Et ce fiat, Joseph l'a reçu de Marie. Et il y a eu dans le cœur de Joseph un épanouissement merveilleux. Dans le cœur d'un homme juste et droit, craignant Dieu, aimant Dieu, de découvrir Marie. Et de la découvrir comme la petite créature que Dieu a mise sur sa route. C'est ça le choix de Joseph. C'est de découvrir cette petite créature toute simple. Marie a 18 ans. Elle devait être charmante, Marie a 18 ans. Extraordinaire. On la verra dans l'éternité comme ça. Parce que je crois qu'un corps glorieux peut avoir tous les aspects qui ont été sanctifiés. Alors de temps en temps, Marie se montrera à nous comme le fiancé de Joseph. Et Joseph nous permettra de la regarder avec lui. Et ce sera merveilleux de voir ça. De voir ce sourire de Marie. Ce sourire de Marie qui est éternel pour Joseph. Parce qu'il y a eu un lien, là. Ça a noué sa vie. Et ça a noué la vie de Joseph. C'est l'Esprit Saint qui, étant le nœud, a noué leur âme, a noué leur sensibilité, a noué leur cœur. Il les a noués dans une extraordinaire pauvreté. Et du reste, là, on touche la grandeur de l'amour. Et la noblesse de l'amour. Un amour n'est noble que quand il est pauvre. Quand l'amour n'a pas cette pauvreté, il perd de noblesse. Parce qu'il l'accapare. Donc le don n'est plus vraiment tout ce qu'il doit être. Dans Joseph, on choisit. choisissant Marie, Marie, en acceptant ce choix et en le vivant, il y a de part et d'autre une très grande pauvreté. Et on comprend tout de suite. Si Marie a confié à Joseph son grand secret, sa consécration à Dieu, et je crois qu'elle ne pouvait pas le faire autre, elle était obligée dans sa fidélité. Autrement, il y aurait eu erreur sur la personne en dehors du droit canon, puisqu'elle était consacrée à Dieu, totalement consacrée à Dieu, plus que des vœux solennels. Pour Marie, sa consécration à Dieu était totale. Si tel est le bon plaisir de Dieu, c'est sûr, avec le désir d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Mais son don à Dieu était sûrement d'une profondeur que elle ne pouvait pas ne pas en parler à Joseph. Et c'est là où je vois, au plan théologique, la pauvreté du choix de Joseph et la pauvreté du choix de Marie. Marie a choisi comme quelqu'un qui ne s'appartenait plus. Et quand on choisit comme quelqu'un qui ne s'appartient plus, le choix alors est entièrement remis au Saint-Esprit. Et quand le choix est entièrement remis au Saint-Esprit, le choix alors a une profondeur de pauvreté, de dépouillement. Nous, quand nous choisissons humainement un ami, il y a toujours un petit accaparement. Et la Providence se charge de nettoyer tout ça progressivement. Mais ça met du temps. Et puis il y a des larmes, il y a des blessures. Quand il s'agit de Marie, ça a tout de suite été dans cette limpidité, dans cette pauvreté. Marie a choisi Joseph comme quelqu'un qui ne s'appartenait plus, puisqu'elle n'appartenait qu'à Dieu. Alors elle l'a choisi dans une initiative d'amour encore beaucoup plus grand. Parce que quand on appartient à Dieu, on a une capacité d'aimer qui va bien plus loin que si on aimait humainement. Beaucoup plus loin. Parce que c'est Dieu qui, à travers le cœur de Marie, aimait Joseph et choisissait Joseph. Et Joseph, lui, pour recevoir cet amour de Marie, et pour recevoir celle qui est totalement consacrée à Dieu, devait lui-même entrer dans cette consécration. Je crois qu'on pourrait dire, voyez, que Joseph s'est consacré à Dieu en choisissant Marie. Il me semble qu'on peut le dire quand Marie a communiqué à Joseph ce qu'elle était. Joseph l'a reçue comme telle et comme il l'aimait. Quand on aime quelqu'un, ce qu'il y a de plus secret dans cette personne, on le vit et on le reçoit. Ça ne peut pas être autrement. Autrement, on montrerait qu'on ne l'aime pas. Puisque l'amour porte sur ce qu'il y a de plus secret dans la personne, ce qu'il y a de plus intime dans la personne, quand on aime vraiment. On aime ce qu'il y a de meilleur dans la personne qu'on aime, dans tout choix d'amitié. C'est cela, le vrai choix d'amitié. C'est d'aimer dans la personne ce qu'il y a de plus intime, de plus profond, ce qu'il y avait de plus intime en mari, de plus profond. C'est son appartenance à Dieu. Et donc, Joseph choisit ça en aimant Marie. C'est assez extraordinaire, du reste, de se consacrer à Dieu par le fait même qu'il aime Marie. On pourrait dire, hein, d'une certaine manière, que c'est la première médiation de Marie. Joseph, en l'aimant, la choisissant, se donne totalement à Dieu. Il ne savait peut-être pas exactement, hein, ça. Mais je suis sûr que c'est l'exigence du Saint-Esprit, ça. Et Joseph se consacrait totalement à Dieu en choisissant Marie. Et en étant donné à Marie. Il était alors, par le fait même, donné pleinement à Dieu. C'est bien cette médiation d'amour s'est passé. Après l'annonciation. Parce que si je suis attentif au texte de l'écriture, je crois qu'il faut bien reconnaître que l'ange ayant vu Marie seule, Marie a répondu à l'ange seule, demandant conseil seulement au Saint-Esprit. Elle était habituée à demander conseil à l'Esprit de Dieu. Depuis sa première consécration, elle était habituée. Et donc, Marie a répondu à l'ange dans un fiat d'amour. Et là, Marie accepte un don qui la dépasse infiniment. Marie. Non. Marie, dans son humilité, considère que Joseph passe devant et que Joseph doit exercer l'autorité. C'est bien évident. Elle a toujours respecté l'autorité et l'autorité de Joseph. Mais, profondément, on ne peut pas dire que Joseph aime plus Marie que Marie ne l'aime. C'est l'inverse qu'il vous dit. Et Joseph ne transcende pas Marie. Non. Il l'a aimé. Marie l'a aimé dans une très grande pauvreté, une très grande humilité, donc elle le laisse passer devant. Mais le fiat à l'annonciation et le choix que Marie fait à travers ce fiat est tout autre. Puisqu'il s'agit de choisir le don que le Père lui fait de son fils. Alors là, ça la dépasse complètement. Et c'est dans une foi toute pure et dans une foi contemplative que Marie peut recevoir ce don. Ce qui explique comment ce don qui lui est fait la plonge dans le silence. Un silence qui la lie à la volonté du Père, qui la lie à l'Esprit Saint, qui la lie à celui qui lui est donné, son Fils. Et ce secret, elle ne peut pas le communiquer. C'est impossible. Vous voyez, le premier secret le communique à Joseph, mais pas le second. Et là, on voit tout de suite toute la différence qui existe entre cette consécration d'elle-même à Dieu et ce don que Dieu lui fait de son Fils, que Marie reçoit dans la très grande humilité. Elle est possédée par ce don. Elle est prise par ce don. Et donc, ce fiat l'engage dans une nouvelle voie de silence. Marie n'a pas réfléchi à ce moment-là sur l'impasse dans laquelle elle se trouvait, au point de vue prudentiel. Et ça, c'est la contemplation qui dépasse la prudence. Et Dieu nous met de temps en temps dans la contemplation, dans des situations qui sont extrêmement difficiles au point de vue prudentiel. Dont on ne voit pas comment. Et Dieu demande d'accepter. C'était ce que Marie a dû accepter. Grâce à la présence de Jésus, elle pouvait le vivre parce qu'il y avait une présence si forte. À sa charité fraternelle à l'égard d'Élisabeth, elle a pu le vivre. Joseph, pendant ce temps-là, lui, vivait de l'espérance. provoquer cette séparation. Dans la charité fraternelle, parce que Marie le demandait. Mais c'est lourd comme épreuve. Se dire qu'il ne pouvait pas y avoir quelqu'un de plus. Dis donc, s'il lui avait bon goût, l'Esprit Saint devait avoir bon goût aussi. Et que s'il lui avait choisi Marie, mais l'Esprit Saint avait dû la choisir. Et la Vierge lui enfanterait. Ça devait rester comme un secret, vous savez ça, pour tous ceux de la race de David. Comme un grand secret. Moi, je crois qu'il y avait quand même quelque chose, là, qui fait que Joseph a dû comprendre qu'il y avait un grand mystère sur Marie. Et que ce mystère s'était réalisé en dehors de lui. C'était normal, étant donné sa pauvreté, son humilité, que ce mystère s'était réalisé en dehors de lui. Et si ce mystère s'était réalisé en dehors de lui, il devait comprendre qu'il s'efface. Les effacements de Joseph. Ça, c'est la grande joie de l'amour. Les effacements de Joseph. Joseph s'efface devant Marie. Et je crois que c'était pour lui l'occasion voulue par Dieu. Oh, très douloureuse. Ne disons pas que ça s'est fait joyeusement. Je crois que c'était la grande croix pour Joseph. Un effacement face à Marie. C'est celle qui est conduite par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. C'est celle qui est sous l'influence directe de l'Esprit de Dieu. On n'a qu'à s'effacer. S'effacer, c'est la renvoyer chez elle. Si c'est l'œuvre du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu en elle, si elle est vraiment la jeune fille, d'où doit naître le Messie. Et que Joseph n'ait pas été averti par Dieu. Joseph n'a qu'à s'effacer. Il a fait un faux pas. Il a été trop loin, trop vite. Il n'aurait pas dû faire ça. Joseph s'accuse, mais n'accuse pas Marie. Lui, si prudent, il a été imprudent. D'extraordinaire, ça. Lui, si prudent, si merveilleusement prudent. Il était imprudent. Vous savez, quelquefois on voit ça. Des garçons épatants, merveilleux, qui jugent qu'ils sont pas dignes d'épouser quelqu'un qui leur semble tellement supérieur. Mais Joseph a dû ressentir ça de façon étonnante. C'est pour ça qu'il ne voulait que l'accomplissement de Dieu. Et alors quand il se trouve là, devant Marie, qui attend un enfant. Immédiatement, c'est la lumière du prophète Isaïe sur la grande prophétie de la Vierge. Ça ne peut être que ça. Et comme Dieu ne l'a rien dit, il n'a qu'à s'effacer. Et les seuls qui peuvent être gardiens de ce secret, c'est les parents de Marie. Ils sont si saints. Ils sont merveilleusement saints. Et Joseph s'efface. Joseph ne peut pas avoir la prudence nécessaire pour être le gardien de celle que Dieu a choisie. C'est impossible. Il n'a pas la finesse qu'il faut, ce travailleur. Il n'a pas la finesse qu'il faut pour Marie. Il n'a qu'à s'effacer. Il y a un moment très très grand dans l'effacement de Joseph. Et c'est quand il touche cet effacement, la kénose de Joseph, vous voyez, l'effacement de Joseph. Joseph qui voit qu'il n'a qu'à se retirer. C'est rude, hein, quand on a rencontré Marie, de voir qu'on n'a qu'à se retirer. Et quand on a eu cette joie merveilleuse de la route. Elle est à Dieu. Elle est totalement pour Dieu. Et Joseph aurait dû s'effacer. Je suis persuadé qu'il y a eu à ce moment-là, dans l'âme de Joseph, une pauvreté qui est descendue très très loin. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout de suite. Vous savez, Dieu ne vient éclairer que les pauvres. Il faut descendre dans des pauvretés très très profondes pour que Dieu vienne nous éclairer directement. Se débrouiller tout seul. On est toujours un peu comme ça. On dit dans la vie religieuse, oh, je m'arriverai à me débrouiller. Dans la vie contemplative, j'arriverai à me débrouiller. J'arrive, je fais déjà des petits progrès, ça va. Cette année-ci, ça va mieux déjà l'année dernière. De temps en temps, Dieu nous balaye hein, pour nous comprendre que les petits progrès qu'on fait, hein, c'est fameux. Alors à ce moment-là, on entre dans la pauvreté. On entre dans la pauvreté qui va très loin. Et c'est à ce moment-là qu'on est directement éclairé. Où je dis pas nécessairement d'avoir comme ça Joseph une visite de l'ange Gabriel pendant la nuit. Hein. N'allez pas avoir tous cette nuit une visite de l'ange Gabriel. Non, oui, je voudrais tellement. Hein. Ou le jour de Saint Joseph, la veille de Saint Joseph, hein, avoir une visite de l'ange Gabriel. Vous voyez ça? Ce serait merveilleux. Vous comprendrez que Saint-Joseph est là, qu'il nous aime, qu'il nous protège. Saint-Joseph a eu cette visite extraordinaire. Vous voyez, l'ange a répondu à tout ce que Joseph posait comme question. C'est pour ça que j'ai parfaitement le droit de dire ce que je dis là, en fonction des paroles de l'ange. L'ange actue ce qui dans le cœur de Joseph était en interrogation. Vous ne comprendrez pas. Il y a un dialogue entre l'ange et Joseph. Et l'ange répond juste parce qu'il est envoyé par l'Esprit Saint. Et l'ange dit à Joseph ces paroles qui, dans le cœur de Joseph, ont dû être la plus grande joie pour le cœur de Joseph. Entendre ces paroles après avoir connu cette pauvreté, cette kénose, avoir connu cet anéantissement qu'il a connu. Quand l'ange dit à Joseph ces paroles si fortes, Joseph, fils de David, ne crains pas, donc il était dans la crainte, de prendre avec toi Marie ton épouse. Il n'osait plus la regarder comme son époux. Il s'était trompé. De prendre avec toi Marie, ton épouse. Ton épouse, elle est bien ton épouse. Car ce qui a été engendré en elle est de par l'Esprit Saint. C'est bien ce que Joseph sentait bien, mais il croyait pas qu'il pouvait être avec Marie et que tout ce qui s'était réalisé en elle était de l'Esprit Saint, cohabiter avec l'Esprit Saint. Il n'avait pas été jusque là, alors qu'au contraire l'ange lui montre que c'est bien cela et qu'il faut que Joseph prenne avec lui Marie, qui est son épouse. Car ce qui a été engendré en elle est de par l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le Seigneur par le prophète quand il dit: voici que l'ange concevra et voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. Et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Vous voyez bien, la prophétie est dite immédiatement là, comme la toile de fond, dans le cœur de Joseph. immédiatement avec l'ange qui dit ça à Joseph. Alors là, après la souffrance, après cet anéantissement, la joie prodigieuse dans le cœur de Joseph. Parce que maintenant, c'est Dieu qui confirme son choix. Alors il n'y a plus aucune hésitation. C'est Dieu qui confirme son choix. Et c'est Dieu qui lui fait comprendre que ce qui est né en Marie est l'œuvre de l'Esprit Saint. D'une œuvre qui dépasse tout. Et Joseph doit coopérer à cette œuvre. Déjà la mère de Dieu, quand l'ange lui dit, prends ton épouse. Donc il est bien l'époux de la mère de Dieu. Ce qu'il pourrait considérer qu'être la mère de Dieu, c'est tout à fait en dehors. Ça relève directement de Dieu, pas du tout. Il est l'époux de la mère de Dieu. Ce qui fait que l'enfant qui naîtra d'elle, l'Emmanuel, avec nous. Il est celui que Joseph doit regarder comme son fils. Il est père d'une manière très curieuse, mystérieuse, infiniment mystérieuse. Mais c'est une paternité qui passe par la maternité de Marie. Voyez, comme toujours, Marie joue pour Joseph ce rôle de médiation. C'est ça qui est très étonnant. Médiation d'abord pour être tout à Dieu, médiation ensuite pour être père à l'égard de Jésus. C'est une médiation très étonnante. D'en donner la grandeur de la paternité de Joseph à l'égard de l'enfant Jésus. Et c'est par Marie, c'est par elle que se fait cette médiation, se fait cette paternité. Et Joseph continuera d'être celui qui est le charpentier, le contemplatif charpentier. Saint-Joseph s'unit